Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
Et à 6h, c'est l'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu et bonjour à tous.
À la une, destination finale, épisode 2 pour le Paris Saint-Germain.
Qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Moins de buts hier, mais pas moins de joie. Le match nul un partout à Munich a suffi. Le choc dans un village de l'Aisne, une adolescente tuée au couteau sur le chemin du collège, son probable ex-petit ami de 23 ans a été arrêté. Et au Moyen-Orient, entre les espoirs de paix et les menaces de bombardement, le cargo d'un armateur français a pu s'extirper du détroit d'Ormuz.
Décidément, Munich, c'est une ville où s'écrit l'histoire du football français. Vous l'avez vécu en direct sur RMC.
Sur le côté gauche, il va entrer dans la surface de réparation de Kvaratskhelia. Il y a du monde en retrait. Dembélé, le but, l'ouverture du score parisien. Ousmane Dembélé.
Et ce but de Dembélé qui fait le bonheur du PSG, qui lui permet de faire match nul un partout contre le Bayern Munich hier soir, qui le propulse surtout en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois d'affilée. Les Parisiens avaient montré leur puissance offensive à l'aller, ils ont démontré leur solidité hier, Valentin Jamin.
Oui, après cette bataille, les joueurs sautent, dansent devant leurs 3700 supporters, fiers de leur exploit, alors que le Bayern a poussé avant d'égaliser, mais trop tard, savoure l'attaquant Désiré Doué.
Très content parce que c'est une victoire où on s'est tous battus les uns pour les autres. On a démontré encore une fois un très grand état d'esprit. C'est pour ces matchs-là qu'on joue au football depuis tout petit. On est surmotivé déjà individuellement.
Face à la meilleure attaque d'Europe, le PSG a donc failli ne même pas encaisser de but hier. Une attitude parfaite, l'ouverture du score tôt grâce au duo Kvaratskhelia Dembélé, puis une grosse capacité de résistance. Salut le capitaine Marquinhos.
Ça a été des confrontations la plus difficile qui nous a testé de tout. Ils nous ont sorti de notre zone de confort et ça a été très bien pour nous, pour grandir cette équipe. Ça, la clé et la force de notre équipe.
En deux matchs, Paris n'a pas perdu contre une équipe en pleine confiance, championne d'Allemagne, vaincue seulement trois fois cette saison. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, applaudit.
C'est une équipe fidèle, fiable, qui peut lutter tout le temps. S'il faut, de fond, ce n'est pas une chose que nous aimons, on peut faire ça. Ça montre la capacité à préparer les défis.
Une attitude qui pourrait amener Paris à conserver son titre, ce que seul le Real Madrid a réussi depuis 35 ans.
Et pour ça, il faudra battre en finale les Anglais d'Arsenal. Ce sera le 30 mai prochain.
Et vous allez réagir ce matin, supporter parisien ou pas. Vous avez vibré hier sur RMC. Est-ce que vous y croyez? Tiens, parce qu'il ne faudrait pas croire que c'est déjà fait non plus. Il y a Arsenal en face, il y a une finale le 30 mai. Vous réagissez, vous commentez ce matin au 32-16, bien entendu.
Il est 6h02 sur RMC. On en vient à cette chasse à l'homme qui n'aura duré que quelques heures dans l'Aisne hier. Un jeune de 23 ans a été arrêté en fin de journée, soupçonné d'avoir poignardé et tué une adolescente de 14 ans, retrouvé sur le chemin de son collège. Les deux auraient possiblement entretenu une relation, dit le parquet. Pierre Bazin, vous vous êtes rendu pour RMC dans la petite commune de Fère-en-Tardenois. Sidération totale pour les habitants du quartier pavillonnaire de la jeune fille.
Oui, c'est sur un petit chemin forestier qu'elle empruntait pour se rendre au collège que l'adolescente a été découverte grièvement blessée avant de succomber à ses blessures. Parce qu'elle habite à quelques pas, alertée par l'important dispositif de gendarmes, le père de famille n'imaginait pourtant pas qu'un tel drame s'était joué dans son quartier.
On entendait toutes les sirènes de gendarmes, on s'attendait pas du tout à un meurtre.
La dame qui habite là, c'est elle qui m'a dit, non, il y a quelqu'un qui a été tué là, juste dans le chemin derrière. On habite à 100 mètres des parents, oui. Je connais surtout le frère de la fille parce qu'il vient jouer à la console avec mon fils. Nous, je vous dis, on habite juste là, derrière, là. C'est impressionnant, quoi. Ça fait peur.
Scolarisée dans le même collège que la victime, Mélissa peine à dissimuler son stress. L'adolescente emprunte tous les jours ce petit chemin forestier où la victime a été poignardée à de nombreuses reprises. Tu la connaissais?
On faisait les trajets ensemble au collège. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu peur. Et je me suis dit, heureusement que ce matin-là, je n'étais pas partie par le même trajet. Ça provoque du stress un peu quand même.
Une cellule psychologique d'urgence a été mise en place dans le collège où l'accueil des élèves sera bien assuré ce matin.
Pierre Bazin pour RMC, notez que l'enquête est ouverte pour assassinat. Un accord pour mettre fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis est très possible. Dernière déclaration de Donald Trump qui n'a tout de même pas manqué de menacer de bombarder toujours plus intensément si les négociations n'aboutissaient pas. Téhéran en répond être en train d'encore examiner la proposition américaine.
Sur le terrain, un bateau de l'armateur français CMA-CGM a enfin pu sortir du détroit d'Ormuz hier.
Quelques heures après qu'un autre a été la cible de tir. Signe qu'avec l'arrêt des escortes américaines, la situation de ces cargos est toujours délicate, tout comme celle des marins à bord, dont des Français, Rachel Sadodine.
Au total, 26 marins français sont toujours bloqués. Et même si aucun ne se trouvait à bord du navire CMA-CGM touché par des tirs iraniens, depuis cette attaque, leur inquiétude monte. Ils se sont confiés à Emmanuel Chalard, le secrétaire général de la Fédération des officiers de la marine marchande CGT.
On a des nouvelles très régulièrement. Les représentants du personnel sont là pour ça. On a des syndiqués qui sont sur la zone. Ils ne voient pas d'utilité à prendre le risque de rester sur place. À quoi sert-il de rester dans le Golfe, exposé à une reprise du conflit, à des tirs de projectiles divers et variés. Nous ne sommes pas des marins militaires.
Emmanuel Chalard réclame donc de
créer un corridor pendant 30 jours pour permettre aux 2000 navires de sortir.
Il condamne, qualifie d'isolé l'opération américaine de déblocage du détroit d'Ormuz menée en début de semaine par Donald Trump et appelle à des escortes encadrées par les Nations Unies.
Les marchés, eux, ont choisi hier de retenir le positif, c'est-à-dire l'espoir d'un accord. Et donc, le cours du pétrole a baissé. Le baril est autour des 100 dollars ce matin. C'est une quinzaine de dollars de moins qu'en début de semaine. Malgré tout, l'essence chez nous a atteint des moyennes records depuis le début de la guerre. 2,03€ le samplon 95, 2,12€ le samplon 98. Le gazole, lui, est à hauteur de 2,23€ le litre. Mais le gouvernement l'a assuré hier. Il n'observe aucune marge abusive de la part des distributeurs. Notez la date, le 10 juin, jour choisi hier pour un appel à la grève à la SNCF. Les syndicats dénoncent les réorganisations successives qui génèrent, je cite, des drames humains.
La SNCF, dont le patron sera aux côtés du Premier ministre à Toulouse cet après-midi.
Et Sébastien Lecornu doit rassurer sur le chantier de la ligne à grande vitesse entre la Ville Rose et Bordeaux. Un rapport ministériel était pessimiste. Projet retardé, budget dépassé, financement par l'État remis en cause. Le chef de Matignon vient signer un protocole d'intention, Pierre Bourget, c'est-à-dire réaffirmer son soutien au projet.
Malgré 2 milliards d'euros de travaux déjà engagés, le financement du projet est toujours en discussion, si bien que différents appels d'offres prévus en février dernier n'ont pas pu être lancés. Alors la venue du Premier ministre est une bonne nouvelle pour Carole Delga, présidente de la région Occitanie.
Enfin, ce dossier avance.
Le financement de l'État prévu initialement à hauteur de 40% du budget total sera au cœur des discussions. Sera-t-il maintenu alors que le coût du chantier explose?
J'attends de Sébastien Lecornu qu'il respecte les engagements de plusieurs gouvernements. Nous demandons juste que les Occitans soient considérés comme les autres Français, c'est-à-dire le droit d'avoir plus de trains du quotidien et d'avoir aussi la grande vitesse.
Pour diminuer les coûts, la SNCF pourrait être amenée à abandonner les dessertes près d'Agen et de Montauban. Impensable pour Raymond Val, président du club d'influence pour le TGV à Agen.
La gare d'Agen, elle rayonne sur 7 ou 8 départements. Il y a 400 000 habitants qui sont concernés par la gare d'Agen. On va perdre quand même un grand nombre de passagers.
Les discussions autour du financement de la LGV devraient durer encore un mois, à la fin duquel les appels d'offres pourraient enfin être lancés.
Pierre Bourget pour RMC. Puis tiens, ils inaugurent ce week-end prolongé du 8 mai. Des bouchons aujourd'hui, c'est rouge partout dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.
Merci Victor Pourchessac, qui a un petit parfum de vendredi. On sera là demain en direct. Hein. Il n'y a pas de jour férié sur RMC, vous le savez. Pour ceux qui bossent, on vous réveillera, on vous informera. Merci Victor Pourchet. On vous écoutera aussi au 32-16 comme Marion ce matin.
Et oui, parce que les congés, notamment les vacances cet été, ça fait partie de vos inquiétudes avec notamment la question du kérosène. Bonjour Marion.
Bonjour.
Marion, vous nous appelez depuis le Lot et Garonne ce matin. Vous avez des vacances prévues à Malaga dans 3 semaines et ouais. Vous n'êtes pas tout à fait rassurée, je crois.
Marion, excusez-nous, est-ce que vous êtes en kit main libre ou en haut-parleur là ?
Non, pas du tout, je suis normale.
Est-ce qu'on vous entend très mal ? Marion, vous nous entendez
après,
ou pas ?
Ouais, moi je vous entends.
Là, c'est bon, ne bougez surtout pas. Vous aviez des billets d'avion, est-ce que vous avez eu des informations de la part de la compagnie aérienne ?
Non, c'est bon, j'ai tanné mon mari hier soir, je suis regarde, on m'a dit c'est bon, ça bouge pas.
Non, Marion, je suis désolé, on va devoir vous laisser parce qu'on n'entend pas très bien ce que vous dites. Mais pour l'instant, a priori, ça bouge pas et vous regardez, vous disiez au standard tous les jours pour voir si le vol est annulé. Le gouvernement s'est voulu rassurant hier.
Pas de risque de pénurie.
Après une réunion, pas de risque de pénurie. La crainte, elle est aussi sur les tarifs, évidemment, à suivre avec cette compagnie dont on parle beaucoup, Volotea, qui avait des tarifs mobiles. Bon, je ne sais pas avec qui volait Marion, mais a priori, En l'état, ça devrait décoller. Après, je suis pas contrôleur aérien. En ce moment, franchement, il faut faire très attention à ce qu'on dit pour dans 3 semaines. Merci Marion de votre appel au 32-16, même si on entendait mal. Il est 6h09.
Bon, on n'est pas contrôleur aérien, mais on vous offre quand même vos vacances sur RMC. Vacances dans les clubs et hôtels Bellambra d'une valeur de 2 000 €. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France où Bellambra s'occupera de tout, de vos enfants, de vos activités et même de vos repas. C'est le tout compris premium. Pour ça, vous envoyez vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Il est 6h10 sur RMC. Dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Bonjour Amélie Courtet.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise.
Amélie, toujours moins de dons pour les associations.
Oui, les Français n'ont jamais aussi peu donné et ça ne va pas s'arranger cette année.
Votre enquête dans une minute sur RMC et RMC Story.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h13 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
La générosité perd de l'élan en France. D'après le dernier baromètre des apprentis d'Auteuil qu'on vous dévoile sur RMC ce matin, les Français donnent de moins en moins aux associations.
Bonjour Amélie Courtet.
Bonjour Mathieu.
En 2024, 52% des Français avaient fait au moins un don. Il n'était que 47% en 2025. Et notez bien que les perspectives 2026 ne sont pas bonnes, y compris parmi les plus aisés. Sans surprise, Amélie, les causes sont avant tout économiques.
Oui, première raison invoquée, la baisse du pouvoir d'achat. Vient ensuite l'inquiétude face à l'avenir. On préfère mettre de côté au cas où, plutôt que de donner à une association. La santé, l'aide aux plus démunis, la défense des animaux, ça reste des causes qui touchent les Français. Mais ce n'est pas ou plus la priorité pour celles et ceux que j'ai interrogés.
L'année dernière, oui, on a moins donné que les années précédentes. Sur une somme de 20 euros, on passe à 10 euros.
C'est vrai qu'actuellement, c'est très, très, très chaud côté budget. Donc, du coup, mes dons sont très espacés. C'est un mois sur 5. C'est dommage, mais bon.
On donne ce qu'on peut, mais pas forcément toujours ce qu'on veut.
Non, j'ai honte. J'ai donné, mais je donne plus. Qu'est-ce qu'ils font de notre argent? Il y a quand même un peu d'opacité là-dessus. Puis, coup de la vie.
Salut, salut! Comment ça va?
Juste à côté, sur la place, Colin essaye de recruter de nouveaux donateurs pour la Ligue humanitaire.
Et on est une magnifique association qui s'engage notamment avec des maraudes. Évidemment, ouais, y a des difficultés. Ça a beau être défiscalisé pour la plupart des associations. Généralement, c'est des noms. Ou alors, j'ai une petite minute, mais je ne vais pas forcément donner.
Mais il retente.
En fonction de tes revenus, tu penses que c'est une possibilité pour toi de donner à une nouvelle association?
Je pense que ça va être compliqué.
Et voilà, c'est un échec malheureusement pour Colin, des dons plus rares, des montants plus maigres. En 2025, le montant moyen sur l'année était de 336 €, 30 euros de moins que l'année précédente.
La générosité qui s'essouffle, Amélie, et forcément ça pèse sur le tissu associatif local.
Oui, avec pour ces associations la difficulté à fidéliser de nouveaux donateurs. C'est souvent sur une petite poignée de généreux que repose l'essentiel des dons du grand public. Et donc si l'un réduit sa part, ça déséquilibre très vite les comptes. C'est ce qu'il s'est passé pour les Maraudes citoyennes amiénoises, une toute petite association dans la Somme qui distribue des repas chauds pour les sans-abri. Martine Bourgeois est la présidente. Régulièrement, elle fait des appels aux dons sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle me montre sur son téléphone.
Alors, Maraudes citoyennes, alors c'est ici. Voilà. Donc, on avait fait une collecte, ouais, en 2025, mais elle a pas marché. On avait donc marqué, nous avons besoin de dons financiers pour l'achat de la viande chaque semaine pour nos maraudes. Votre solidarité nous aidera à continuer cette belle aventure humaine qui nous tient à cœur. Mais on va essayer de refaire une cagnotte en ligne dans les prochains jours. Cette année, j'ai eu, allez, un chèque de 50 € dans une maison de retraite et 20 €. Ça n'est pas énorme. On a beaucoup de dons pour faire de la préparation des repas, mais pas de dons pécuniers. C'est vrai que ça nous manque. Pour l'instant, ça va, mais on arrive à la fin.
C'est ça qui est édifiant aussi, Amélie. Un quart des associations ont moins de 2 mois de liquidité.
C'est ce que révèle une enquête de la Fédération des acteurs de la solidarité en octobre dernier. Alors, entre associations, on se serre les coudes. Certaines, en difficulté, sont réunies par exemple au sein du groupe SOS. Elles s'entraident pour mieux maîtriser leurs finances. Justine Murcier en fait partie. Elle est responsable collecte à l'ONG Planète Urgence.
la résilience a ses limites. La baisse de la générosité a des impacts immédiats. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte conjoncturel un petit peu complexe, d'instabilité politique, de crise économique. C'est important qu'on ait ce soutien du grand public pour pouvoir compenser finalement la perte de subventions dont beaucoup d'associations ont été touchées cette année. Il y a des associations qui sont déjà concernées par des licenciements et par l'arrêt de certains programmes.
Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité alertait encore en début d'année une association sur trois menacée de disparition faute de financement. Ce sont pourtant les derniers liens de cohésion sociale, soulignait-il.
Merci beaucoup Amélie Courtet. Vous allez témoigner ce matin au 3916. D'abord, vous donnez peut-être régulièrement chaque année, je ne sais pas, les Restos du Cœur, une autre association. Vous avez l'habitude, est-ce que vous avez... arrêter, mais aussi réduit. C'est ça qu'on retient aussi, c'est que ceux qui donnaient 20 euros donnent peut-être 15, 10 désormais. Et puis, j'aimerais aussi entendre les associatifs. Vous qui êtes engagés, qui travaillez dans le monde associatif, que ce soit bénévole ou salarié, vous devez forcément le ressentir. Ça a forcément un impact, la baisse des ressources pour votre travail qui pourtant est souvent essentiel. On vous attend ce matin. Vous allez témoigner au 3216. N'hésitez pas, vous serez en direct avec nous. Il est 6h18.
Et à 6h18, je vous présente un rappeur, BNPLG, ce matin.
Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi.
Le rappeur originaire de Tourcoing vient d'annoncer deux zéniths, les deux premiers zéniths de sa carrière, et il est très fier. Il n'y a pas si longtemps, on allait encore en Laguna faire des concerts dans les endroits les plus improbables de France. Voilà ce qu'il écrit sur ses réseaux sociaux hier en annonçant ces deux dates. Je pensais jamais le faire. Il faut dire que ça avait un peu mal commencé pour BNPLG. Repéré dans le programme Nouvelle École, c'est la Starac des rappeurs diffusée sur Netflix. Repéré mais éliminé dès la première étape. Sauf qu'à sa sortie, BNPLG a décidé de capitaliser là-dessus.
Je suis le meilleur rappeur de la terre. Si je le pense pas, qui va me sortir de la merde?
Et on peut dire que ça a fonctionné. Ouais, clairement, ils se sont plantés. Lui, en tout cas, il a bien capitalisé là-dessus. En 4 saisons de Nouvelle École, c'est simple, c'est le rappeur qui a fait le plus parler de lui.
Payé au mérite, je viens de là où ça se tue au pastis à 11h30. Les murs ont des oreilles, les enfants aussi. Les darons réécrivent les histoires sans fin. Un camel, un bingo, une anecdote.
Alors, vous l'entendez dans ses textes, BNPLG décrit sa réalité sociale, sa volonté de s'en sortir et même ses relations avec ses potes.
Entre mains, qu'on se dit pas qu'on sait. Déjà petit, on se mettait des droites. Je peux sauter pour un nique ta mère. Ça veut dire je peux mourir pour toi. Entre mecs, on se dit pas qu'on s'aime. Entre mecs, on se dit pas qu'on souffre. Avec mon gars, je fais comme un Pôle emploi. Je reste devant et j'attends qu'il s'ouvre.
Mathieu, on se dit je t'aime entre potes ou pas?
J'ai cru que t'allais me faire une déclaration.
Non, je me permets de poser la question à Mathieu, puisque je sais que Mathieu connaît BNPLG grâce à Charles Magnin.
Que j'aime d'amour. Pote. J'aime d'amour,
voilà,
Charles.
Voilà la déclaration.
Qui dort à cette heure-ci, à l'heure où je l'ai laissé hier soir.
Charles Magnin, qui, comme moi, a vu BNPLG à l'Olympia, à la Cigale aussi, je crois. En tout cas, moi, j'ai fait les deux dates et je peux vous dire que c'était génial. Les deux zéniths s'annoncent donc géniaux aussi. Ce sera à Paris et à Lille. Chez lui, il va jouer à domicile. La billetterie ouvra midi pour les intéressés.
Ah bah c'est intéressant.
Bah merci Mathieu.
Non, pour les intéressés.
Ah oui,
pardon.
D'accord.
Je peux même réfléchir. Voilà.
Bon, on y va ensemble.
Allez, chiche.
Chiche.
6h20 sur RMC, RMC Story. Merci Élise pour la découverte. Maintenant, Élise, on passe aux trois titres de l'actualité.
Et Paris, qui n'est plus qu'à un match du doublé. Ils ont éliminé le grand favori, le Bayern de Munich, hier sur un match nul, un partout. Et les Parisiens ont donc rendez-vous avec Arsenal à Budapest le 30 mai prochain. En finale de Ligue des Champions. Le porte-avions français Charles de Gaulle, prépositionné dans la région du Golfe en vue d'une opération de sécurisation du détroit d'Ormuz, alors que Donald Trump estime qu'un accord est proche avec l'Iran. Et puis le bateau MV Ondus, foyer d'antivirus, on va en parler dans un instant. Eh bien, il a quitté le Cap-Vert hier. Il est attendu samedi à Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, d'où l'évacuation des passagers devrait débuter lundi prochain.
Et il est 6h21. Et on retrouve le docteur du morning, le docteur Gage, qui est en direct ce matin avec nous. Ça va, Aurèle ?
Oui, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler... J'avais l'air un peu fatigué, mais aujourd'hui, nous allons parler...
Concentré, j'aurais dit.
Concentré, puisque le sujet est important, puisque c'est un sujet qui inquiète nos auditeurs. Doit-on redouter une pandémie mondiale pour ce nouveau virus sur ce bateau de croisière ?
Franchement, merci de répondre à cette question, Aurèle, dans un instant. Et moi, je suis angoissé de revoir tous les spécialistes du Covid, là. Vous les voyez tous réapparaître et nous expliquer. Oh, non, on n'avait pas envie de vous revoir. Pas tout de suite, en tout cas. Merci beaucoup, Aurèle, dans une minute sur RMC et RMC Stories, 6h22.
Jusqu'à 7h.
5-7. suite, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h24 sur RMC et RMC Story, on sort la carte vitale.
RMC, consultation gratuite.
Ah non, c'est gratuit.
Oui, c'est la carte vitale.
On a appris en fin de semaine dernière qu'un bateau de croisière avec plus de 100 passagers et plus d'une vingtaine de nationalités présentait des cas d'infection à l'hantavirus, un virus peu connu du grand public. On rappelle que 3 personnes sont mortes. Alors, on va essayer de décrypter, de tout comprendre avec vous, Dr Gage. D'abord, qu'est-ce que c'est que les hantavirus?
Les antivirus, c'est avec un H, mais les antivirus, c'est donc une famille de virus. C'est une famille de virus qui va avoir quand même quelques caractéristiques communes. C'est un virus qui va se retrouver généralement chez les rongeurs. Et en fait, il va faire sa vie chez le rongeur. Le rongeur arrive à vivre tranquillement. C'est juste que de temps en temps, quand il va uriner, quand il va avoir des selles via la salive, eh bien, il va pouvoir transmettre le virus à d'autres rongeurs qui vont continuer comme ça et ça va être un cycle perpétuel. Sauf que, eh bien, il y a ce qu'on appelle des hôtes accidentels. C'est-à-dire que parfois, lorsque vous êtes en contact justement de ces éléments contaminés des rongeurs, que ce soit l'urine, la salive ou les déjections, eh bien là vous avez le risque d'avoir une maladie à hantavirus. Cette maladie, il faut bien comprendre que vous allez avoir 2 formes. Une forme lorsque c'est un hantavirus qui est originaire plutôt d'Europe ou d'Asie, qui va être avec une atteinte hépatique rénale qui est moins grave, et une forme américaine qui, elle, par contre, va faire des formes cardio-respiratoires qui, elles, sont très létales puisqu'on peut avoir une létalité en de l'ordre de 30 à 60%. Bon, cette pathologie-là, cette famille de virus, il faut bien comprendre que normalement, il n'y a pas de transmission entre les hommes. C'est vraiment rongeur homme, pas homme-homme, sauf pour une variante de ce virus, qui est le virus justement concerné là, qui s'appelle le virus des Andes, référence à la cordillère des Andes, et qui peut malheureusement, là, dans ce cas présent, se transmettre d'humain à humain.
Donc, dans ce cas-là, celui dont on parle dans l'actualité, il peut y avoir transmission interhumaine, c'est le point à noter.
C'est exactement ça. Dans ce cas présent, sur ce bateau de croisière, puisqu'on a bien identifié l'une des souches d'antavirus, c'est bien le virus des Andes, celui où il y a une transmission interhumaine qui est possible.
Est-ce que ça veut dire, Aurel, qu'on doit redouter une nouvelle pandémie mondiale?
Non. Alors, je m'explique parce que j'ai quand même des éléments pour vous aider là-dessus. Première chose, la transmissibilité est faible. La transmissibilité, on n'est pas comparable à du Covid ou à de la grippe, d'accord? Entre humains, il faut vraiment un contact rapproché, fort.
Un couple, quoi.
Un couple, exactement, ou des gens qui vivent dans la même pièce, ou des gens qui soient vraiment très proches. Et il faut bien comprendre que dès qu'on entend pathologie contagieuse, maintenant on a été traumatisé par le Covid, on a toujours peur. Mais il faut savoir que des pathologies contagieuses qui circulent sur le territoire, on en a souvent. Et alors, concernant l'antavirus et le virus des Andes, il y a déjà eu des foyers qui ont déjà été jugulés. Donc, on n'est pas sur la même chose que le Covid, une nouvelle souche qu'on connaît pas, qui est en train de se propager. Cette souche, on la connaît, il y a déjà eu des foyers qui ont été endigués, et ça depuis plusieurs années.
Merci beaucoup. Au moins, grâce à vous, Aurel Gage, on y voit un peu plus clair entre les déclarations alarmistes, les déclarations rassurantes. Au moins, on sait de quoi on parle. Merci, Aurel. Et si vous avez des doutes, des gens qui vous posent des questions, vous partagez le podcast de la solution Conso à votre entourage. C'est sur l'application RMC, 6h27.
Il est l'heure de jouer avec Philippe qui nous appelle depuis l'Ain. Bonjour Philippe.
Bonjour toute l'équipe.
Philippe, chef de cuisine scolaire.
Ah, c'est notre
régulièrement.
Philippe. Il a été tiré au sort.
Oui, il a été tiré au sort. Et vous voyez, la fidélité paye, Philippe, puisqu'on vous envoie en vacances.
Ben, merci beaucoup. Et puis, je vous ai envoyé un petit message ce matin parce qu'aujourd'hui, nous, aux gamins, on leur fait des burgers maison avec des fruits de fraîche.
Oh là là, burger maison, frites fraîches, c'est autre chose. Philippe, c'est le débat fast-food d'hier. Franchement, merci d'y répondre comme ça. Burger maison et frites fraîches pour les enfants à la cantine. Quelle belle journée avant le week-end en plus.
En plus, oui. Et puis on fait nos pains. Hein. Les pains, on les achète pas.
Ah ouais.
Jusqu'au pain. Moi, je fais tout, sauf le pain. Et c'est Manu Le Chypre qui m'a dit, tu devrais, ça change tout.
Vous allez mériter des vacances du coup, Philippe.
Eh ben merci beaucoup. Et donc,
vous allez choisir la mer ou la montagne? Il y a 45 destinations, hein, 2000 euros.
Ça sera plus l'océan.
Ah, l'océan. Eh ben très bien. C'est un excellent choix.
La première fois, on va partir avec notre petit-fils cette année, donc je vous dis pas, on va emmener le petit-fils.
Formidable. Philippe, je suis ravi que ce soit un fidèle auditeur du Morning qui reparte avec cette semaine de vacances bel en bras. Vous avez été tiré au sort, félicitations. On fait gagner un autre auditeur demain matin, évidemment. Merci Philippe.
5-7, le Morning RMC.
Un nouveau journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Et c'est à la une, ce matin on en parlait, les autorités sanitaires qui s'activent pour contenir une épidémie d'antavirus.
À la recherche de cas contacts, la maladie s'est propagée à bord d'un navire de croisière, le MV Ondus et ses 150 passagers. Leur évacuation débutera lundi. Le Charles de Gaulle, le porte-avions déployé en mer Rouge en vue d'une opération de sécurisation du détroit d'Ormuz, à l'heure où le gouvernement se montre rassurant pour les vols de l'été, il n'y aura pas de pénurie sur lequel kérosène. Et le PSG en quête d'une deuxième étoile, qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions après avoir écarté le Bayern Munich. Les Parisiens affronteront Arsenal. Ce sera le 30 mai prochain à Budapest.
Le navire MV Ondus arrivera donc aux Canaries samedi.
Et ses passagers seront débarqués lundi, transférés vers leur pays d'origine sous strictes conditions sanitaires en raison d'une contamination à l'antivirus, maladie respiratoire qui a déjà tué 3 personnes à bord. 3 autres passagers symptomatiques ont été évacués hier. L'OMS suppose qu'un ou plusieurs premiers cas ont été infectés en dehors du navire. Et c'est donc à terre, Solène Leroux, que les recherches poursuivent pour tenter de retrouver des cas contacts, parmi eux, Solène, un Français.
Un Français dont on ne connaît ni l'identité ni l'état de santé. Ce qu'on sait, c'est qu'il a voyagé dans le même avion qu'un passager infecté du navire. Pour ce cas contact, tout comme pour les 5 Français toujours à bord du MV Ondus, les autorités sanitaires précisent à RMC préparer d'ores et déjà les dispositifs de suivi nécessaires.
Ce sont des protocoles qui sont bien connus, hein, qui sont des quarantaine.
Anne-Claude Crémieux est infectiologue. Prudente, elle attend d'avoir l'ensemble des éléments, mais elle se veut rassurante.
À ce stade, il semble qu'on ait affaire à un cluster qui ne présente pas de caractéristiques inquiétantes sur le plan d'une diffusion beaucoup plus large.
Pour que cette souche du virus se transmette d'homme à homme, il est nécessaire qu'il y ait un contact rapproché et prolongé, explique la spécialiste, essentiellement entre conjoints et dans une moindre mesure leur famille.
Et le patron de l'OMS, lui, se veut rassurant. La situation n'est pas similaire à celle du Covid-19. Le risque d'une pandémie mondiale est faible, dit-il.
Un homme de 23 ans, toujours en garde à vue dans l'Aisne ce matin.
Principal suspect dans la mort d'une jeune adolescente de 14 ans. Possiblement son ex-petite amie. Elle a été retrouvée grièvement blessée hier matin sur la voie publique à Fère en Tardenois, près de Reims. Décédée au moment de l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Examen ce matin de la demande de remise en liberté de 2 personnes placé en détention provisoire dans l'affaire de la disparition de Manon Rolando en mars près de Nantes. Sa fille de 15 mois a été retrouvée en Algérie en présence de son ex-compagnon. Interpellé, il a été placé en détention provisoire. On est toujours ce matin sans nouvelles de Manon Rolando. Si elle veut garder espoir, sa mère, jointe par Maxime Clier-Ruza du service police-justice d'RMC, ne cache pas son inquiétude.
L'espoir que nous avons à ce jour est rongé par le temps qui passe. Nous savons que nous devons le garder, mais c'est très dur. C'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi et j'en suis toujours là. Je fais confiance aux enquêteurs, la gendarmerie de France et aussi aux autorités algériennes. Hein, maintenant que Karim a été arrêté là-bas, ben, il faut qu'on leur fasse confiance. Et je leur fais confiance aussi de s'entendre avec les Français pour retrouver Manon.
Il est 6h33 sur RMC et le porte-avions Charles de Gaulle a franchi le canal de Suez, repositionné en mer Rouge.
Il s'agit pour Emmanuel Macron d'un signal visant à montrer que la coalition de Paris et de Londres se tient prête à sécuriser le détroit d'Ormuz que la France propose de traiter à part du reste des négociations en raison de son intérêt commun. Des négociations qui semblent aller dans le bon sens. Donald Trump se montre optimiste en vue d'un accord possible avec l'Iran qui continue d'étudier la proposition américaine. Le président américain et ses mots qui ont fait réagir les marchés, à commencer par le pétrole, en forte baisse autour des 100 dollars ce matin. Le conflit avait fait exploser les prix de l'énergie. Le kérosène n'est pas épargné. En revanche, il n'y a pas de pénurie. Le ministre de l'économie l'a redit hier, Victor Gérard, dans une réunion avec les acteurs du transport aérien.
Oui, car la France a diversifié ses sources d'approvisionnement en kérosène pour compenser les 20% habituellement venus du Golfe Persique. Des importations en provenance des États-Unis, par exemple, pendant que les raffineries françaises tournent à plein régime. Peu de risques donc de pénurie dans les prochains mois, promet le ministre de l'économie, Roland Lescure.
Si c'était le cas, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait des stocks stratégiques. Les stocks stratégiques ont été très peu utilisés pour le gasoil et absolument pas sur le kérosène. On a à la fois ceinture, tout se passe bien, on a réussi à s'adapter, et bretelles. Les stocks stratégiques.
Jusqu'ici, les annulations de vols restent très limitées, moins de 2% selon la Fédération de l'aviation, la FNAM, qui représente les compagnies aériennes en France. Des compagnies qui ont obtenu du gouvernement des reports de charges pour les aider à absorber la hausse de leurs coûts d'exploitation. Mais alors, quid du prix de vos billets dans tout ça? La hausse sera modérée, s'engage Pascal de Isaguirre, président de la FNAM.
Notre intérêt, c'est de réaliser une bonne saison été et de ne pas décourager la demande de voyage des Français. Donc, les compagnies aériennes restent raisonnables en la matière.
D'autant que les vacances d'été représentent à elles seules la grande majorité de leur chiffre d'affaires.
L'histoire du Paris Saint-Germain continuera de s'écrire à Budapest, qualifié hier soir après une rude bataille sur la pelouse du Bayern Munich, un partout. Ça fait 6-5 sur l'ensemble des deux rencontres. Et c'est donc en Hongrie le 30 mai prochain que les Parisiens tenteront de décrocher un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions face à Arsenal. C'est le fruit d'un long travail, nous dit le capitaine parisien Marquinhos.
Franchement, je réalise parce que toutes les années que j'ai passées, je sais très bien comment c'est dur. Peut-être les plus jeunes, ils réalisent pas trop parce qu'ils ont vécu que ce moment, ces trois années qu'on a eues, des belles années, demi-finale, finale, champion. Et moi, avec tout le parcours que j'ai eu, je réalise parce que, comme j'ai dit, c'était la cinquième demi-finale pour moi en 13 ans, la troisième finale. Et je sais comment c'est difficile le parcours. Si nous, on est arrivé à passer tous ces parcours et arriver en finale, on peut franchement faire de belles choses et gagner cette finale.
Vous avez aimé ce que vous avez vu hier, les supporters parisiens ou amateurs de foot tout court, on continue d'en parler, y compris dans Apolline Matin. Ce matin, le PSG en finale de la Ligue des Champions, on vous attend au 32-16 ce matin.
Bon, un club en finale européenne, c'est bien. Deux, c'est mieux, Thibaut.
Strasbourg reçoit les Espagnols du Rayo Vallecano ce soir, demi-finale retour de Ligue Conférence. Les Alsaciens partent avec un but de retard, il faudra donc renverser la tendance. Ça tombe bien, ils en ont l'habitude. L'entraîneur Gary O'Neill est déterminé.
Nous savons que nous pouvons le faire. Nous avons gagné énormément de matchs ici. Ce ne sera pas facile, bien sûr. Les matchs contre Mayence et Rijeka ont été compliqués. Tout le parcours pour arriver jusque-là n'a pas été simple. Mais nous sommes prêts à aller à la guerre. Nous avons déjà prouvé de quoi nous sommes capables. Et il faudra le faire à nouveau.
Soirée spéciale sur RMC 21h.
Et puis les courses, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp.
20h15, le 8 Mister Gat, c'est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 10 Princesse d'Amour, le 8 et le 10.
Merci beaucoup Thibaut Texer. Il est 6h37, on va accueillir Olivier qui est à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Vous réagissiez au choix de la rédaction ce matin. Les dons en baisse pour les associations de 2024 à 2025, ça baisse. 2025 à 2026 sur le début de l'année, ça baisse aussi. Les montants sont en baisse aussi. Vous travaillez dans l'associatif, vous êtes président d'une asso.
C'est ça, tout à fait.
Donc vous mesurez finalement la baisse des ressources?
Oui, on la mesure et puis on s'en est vite rendu compte, nous, que la baisse, elle suit malheureusement la baisse du pouvoir d'achat également. C'est-à-dire que les gens ont maintenant plus de priorités, surtout pour la famille, et que ça se ressent en tout cas sur les dons.
Donc moins de dons et des dons moins élevés?
Oui, c'est ça. Moins de dons, des dons plus petits, des sommes moins conséquentes. Mais voilà, nous, ça nous oblige à aller plus souvent sur le terrain, à aller expliquer nos actions. Mais c'est vraiment pas simple en ce moment.
Oui, vous sentez qu'il faut un peu se retrousser les manches pour aller chercher des fonds, pour aller chercher un peu de la générosité en ce moment en particulier. Olivier, je vous remercie de nous avoir appelé. Vous êtes dans quel domaine associatif?
Dans l'aide aux exilés.
Dans l'aide aux exilés.
Elle s'appelle comment l'association, Olivier?
Osmose 62.
Voilà.
Osmose 62.
Mais certains de nos auditeurs ont envie de donner un coup de pouce à cette association. Merci beaucoup, Olivier.
Oui, puis à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, on est directement concerné aussi, oui, par l'aide aux exilés, évidemment. Merci beaucoup, Olivier. Dans un instant, les braquages, les fermetures, 16% de commerces de centre-ville sont aujourd'hui fermés en France. Et ce matin, deux ministres sont à Nancy pour présenter un plan de sécurité pour les commerçants. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et qu'attendez-vous? Surtout, on en parle dans un tout petit instant avec le président du collectif Ras-le-Vol. C'est dans une minute.
Et puis ça y est, on est au complet. La bande du morning est là. Virginie Fulpin pour la causerie.
Le Paris Saint-Germain est encore plus fort que la semaine dernière, encore plus fort que l'année dernière même.
Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Est-ce que vous connaissez le snooping?
Oui.
C'est un chien.
Oui.
C'est un chien qui dort.
Oui, c'est pas celui-là. Non, c'est pas snooping. Snooping, snooping, c'est le fait de fouiner dans le téléphone de sa compagne ou de son compagnon.
Les gens font ça?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que vous ne croyez.
À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h42. Vous êtes sur RMC et RMC Story.
Bonjour Jérôme Jean.
Bonjour.
Vous êtes le président de Ras-le-Vol, le collectif qui défend les commerçants victimes de vols à l'étalage. Ce matin, Serge Papin, le ministre du Commerce, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Jean-Didier Berger, sont à Nancy tous les deux pour présenter un plan de sécurité pour les commerces. Vous avez été associé à la préparation de ce plan. Qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui?
On attend beaucoup de choses, effectivement, parce que le fléau des vols à l'étalage en France continue de progresser chaque année un peu plus. Alors, on attend plus de moyens, déjà, plus de moyens pour la police nationale, pour la police municipale, pour la gendarmerie. On attend aussi plus de fermeté de la part de la justice dans ces condamnations. Il y a un espoir aussi que nous avons, c'est la proposition de loi qui pourrait permettre demain aux commerçants d'afficher le visage des voleurs. Celle-ci, nous, on y croit beaucoup. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. On attend qu'il y ait des vraies mesures qui soient mises en place parce que les vols à l'étalage en France continuent chaque jour d'être un fléau qui empoisonne les commerçants.
Vous réclamez un exemple. Il y a les brigades de sécurité du territoire qui patrouillent à Lille, qui sont déployées dans la ville de Lille. Vous demandez la généralisation de ce système. Alors, qu'est-ce que c'est que les brigades de sécurité du territoire? Comment ça fonctionne?
Alors, brigade de sécurité du territoire, c'est un service qui dépend de la police nationale. Et vous avez raison de le préciser. On attend effectivement qu'il y ait des mises en place efficaces. Parce qu'à Lille, ça fonctionne. Ça veut dire que ce sont des officiers de police qui sont concentrés uniquement sur les vols à l'étalage. Il faut bien comprendre que il y en a énormément, tous les jours, partout. Donc aujourd'hui, ces gens sont capables d'intervenir de façon très proche avec les commerçants, avec les associations de commerçants, évidemment proches des autorités, puisqu'ils font partie de la police. Et dès qu'il se passe quelque chose, ils interviennent, ils verbalisent, ils mettent aujourd'hui les moyens pour faire peur à ces voleurs qui continuent de progresser sur le terrain, eux en l'occurrence.
Ce que vous demandez d'ailleurs, c'est aussi des peines plus dissuasives.
Mais c'est une évidence. Aujourd'hui, un voleur qui entre dans un magasin et qui subtilise un produit et qui le vole, il ne risque rien, au risque de choquer vos auditeurs ce matin. Il ne risque rien. Un rappel à la loi, un classement sans suite. Non, ça c'est plus acceptable. Il faut des peines qui soient dissuasives. Il faut qu'on puisse dire aux voleurs, attention, si tu fais ça, voilà ce que tu risques. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir peur des peines, puisque peine, il n'y a pas. Demandez aux commerçants, ils portent plainte, ça n'aboutit sur rien. Ça ne peut plus continuer comme ça.
Mais le problème aujourd'hui, c'est la loi ou c'est son application?
Les deux. Aujourd'hui, la police, elle manque de moyens. Quand les commerçants appellent les policiers ou les gendarmes, qui sont évidemment volontaires pour intervenir, la majorité du temps, ils interviennent sur des accidents de la route, ils interviennent sur des homicides, ils interviennent aussi sur des violences conjugales, qui sont des priorités, puisqu'il y a atteinte à la vie des personnes. Mais vous savez que les commerçants qui se font voler 500, 1000 euros, 2000 euros, pour eux aussi, leur demande est prioritaire. Donc on veut plus de moyens pour la police, plus de fermeté aussi pour la justice. Donc on attend vraiment beaucoup de la part des deux ministres qui seront présents ce matin à Nancy.
Jérôme Jean, au-delà de ces questions sur le vol et le vol à l'étalage, la fameuse démarque inconnue, les possibilités d'évolution de la loi, il y a aussi une question de sécurité tout court, de délinquance, de violence, d'agression subie par les commerçants. Là aussi, vous attendez des réponses.
Oui, parce que face aux problèmes qu'on évoque ce matin, il y a des solutions. Vous l'avez dit, à Lille ou ailleurs, il y a des idées qui sont mises en place et qui fonctionnent. Moi, je pense, et nous le pensons au sein du collectif Ras-le-Vol, que la sécurité est une des priorités des Français. On a besoin, quand on se balade en famille, avec les amis, avec nos enfants, on a besoin de se sentir en sécurité. Et de plus en plus, le dimanche en famille, quand on en parle, on sent qu'il y a une montée de l'insécurité. Dans un an, il y a des élections. N'attendons pas les élections pour intervenir. Faisons-le ce matin. Nous attendons.
Mais alors, Jérôme Jean, justement, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a aucune statistique officielle sur la violence subie par les commerçants, par exemple? Est-ce que vous arrivez à la quantifier ou à mesurer son évolution?
Alors nous, on a lancé une enquête nationale, c'était d'ailleurs intéressant, et on l'a envoyée aux différentes autorités politiques pour qu'elles en prennent conscience. Et on a les chiffres du ministère de l'Intérieur, quand même, qui sont un réel constat, qui ne font que répéter ce que je dis là, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des vols, il y a une augmentation des agressions. L'augmentation, elle est là. Je pense que le problème qu'il y a à côté, c'est les moyens qu'il faut mettre en place pour venir contrer cette augmentation. Mais aujourd'hui, que ce soit les chiffres du collectif Ras-le-Vol dans le cadre de cette étude nationale, ou les chiffres du ministère de l'Intérieur, tout le monde est d'accord. Si quelqu'un vous dit qu'il y a de moins en moins d'agressions ou de moins en moins de vols, vous pouvez nous l'envoyer, on va s'en occuper. On aura des éléments concrets à lui présenter.
D'un mot, simplement pour terminer, le sentiment que ça se dégrade, est-ce que vous l'avez aussi? Et parfois, on ne parle pas que d'agression physique, on parle aussi d'incivilité, d'agression verbale. Est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'il y a un an?
Oui, effectivement, parce qu'on a une tendance à banaliser tout ça. Et aujourd'hui, on se concentre sur ce qu'on appelle les faits graves, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les homicides, les choses où, quelque part, malheureusement, le sang coule, où il y a des agressions violentes. Il y a énormément de faits qu'on pourrait qualifier de faits mineurs qui pollue le quotidien des commerçants, mais qui pollue le quotidien des Français. Il n'y a pas que les commerçants qui sont ennuyés par ça. Mais on va se dire, allez, c'est normal de se faire casser sa voiture, c'est normal de se faire agresser, de se faire insulter dans la rue. Stop, c'est terminé. Arrêtons de banaliser les choses. Il faut remettre de l'autorité, il faut remettre de la répression, il faut être plus ferme.
Puis peut-être remettre un peu de sérénité aussi pour les commerçants. 16% de rideaux tirés dans nos centres-villes. Faut-il y voir un lien de cause à effet? On parle beaucoup de la voiture et du stationnement. Il y a quand même aussi une réalité de ce qui se passe une fois qu'on est à l'intérieur du commerce. Merci beaucoup Jérôme Jean d'avoir répondu à nos questions. Président de Ralvol, le collectif qui défend les commerçants victimes de vols à l'étalage. C'était un des sujets ce matin notamment. Merci. Il est 6h48 sur RMC et RMC Story. Le rappel des trois grands titres de l'actu.
Submersibles, ils ont souffert, mais les Parisiens ont résisté hier soir sur la pelouse du Bayern Munich. 5-4 à l'aller, 1-1 au retour et à la clé une finale de Ligue des Champions. Ce sera le 30 mai prochain face à Arsenal. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid et juge désormais qu'un accord avec l'Iran est très possible. Après, je cite, de très bonnes discussions ces dernières 24 heures. Et puis, première nuit en garde à vue pour l'homme de 23 ans suspecté d'avoir tué à l'arme blanche une collégienne de 14 ans hier matin. À faire en Tardenois, dans l'Aisne. Il s'agirait possiblement de son ex-petite amie.
Il est 6h49. Soyez toutes et tous les bienvenus sur RMC. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de retrouver la bande. À ma droite, il y a Géraldine Demory, Anthony Morel, qu'on va entendre dans un instant, mais d'abord Virginie Fulpin, que peut-être vous attendiez ce matin pour la causerie. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Virginie, on vient de le dire, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Ils ont éliminé les Parisiens, le Bayern de Munich, un partout hier soir après la victoire 5-4 de l'aller. Et c'était peut-être, peut-être moins flamboyant qu'à l'aller, mais en fait, vous le dites, c'est encore plus fort.
Oui, c'est plus fort, encore plus fort. Au départ, on a bien cru qu'on allait revivre exactement la même chose que la semaine dernière. Hein. Gvaratskhelia qui part à fond, laissant sur place toute la défense du Bayern. Isser Ousmane Dembélé et but du Ballon d'Or. Ça faisait 2 minutes que le match avait commencé. Mais non, il n'y a pas eu d'avalanche de buts après. Ce PSG-là, il a montré autre chose. Il a montré qu'il savait aussi résister au pressing des Allemands. Alors un pressing certes un peu désorganisé, mais un pressing quand même, à la pression de l'enjeu aussi, à la furia du public adverse. Les Parisiens, ils ont accepté de laisser le ballon au Bayern, de courir sans plier, de défendre sans jamais se sentir en danger. On savait que cette équipe-là savait attaquer, elle a montré qu'elle savait défendre, gérer, être sereine et sûre de sa force.
Le PSG va donc défendre son titre en finale. Est-ce que c'est aussi encore plus fort que l'an dernier ?
Plus fort que la semaine dernière, plus fort que l'an dernier, oui. Lors de la conquête de sa première Ligue des Champions l'année dernière, il y avait un peu une sorte d'effet de surprise. Non pas que le PSG était inconnu sur la scène européenne, évidemment, mais de la part des autres équipes, il y avait un peu de condescendance. Oui, les Parisiens sont très forts, mais quand les matchs qui comptent arrivent, ils ont les jambes qui tremblent et le cerveau en PLS. J'exagère un petit peu, mais c'était un peu ça que les autres pensaient. Ils s'attendaient pas forcément à les voir dompter leurs démons. Cette année, les Parisiens, ils défendent leur titre. Ils ont le ballon d'or dans leur rang. C'est donc l'équipe à battre depuis le début de la saison. Donc réussir à aller en finale avec cette cible dans le dos, oui, je pense que c'est encore plus fort.
Mais reste la dernière marche.
Alors là, ça va être un peu différent. Le PSG sera favorite, cette finale inédite contre Arsenal le 30 mai à Budapest, on le rappelle. L'étiquette d'éternel loser, ce sont les Anglais qui la portent. Ils ont joué qu'une finale de Ligue des Champions, c'était il y a 20 ans, et ils l'ont perdu. Alors d'accord, ils sont leaders du championnat anglais, mais ils sont capables de tout perdre dans les 3 derniers matchs. On le sait, ça se passe souvent comme ça avec eux. Alors Arsenal n'a beau avoir perdu aucun match dans cette Ligue des Champions cette saison, faut quand même le rappeler, ils seront outsiders de cette finale. C'est beaucoup plus confortable. Les Parisiens, eux, ils seront favoris. Aller gagner dans ces conditions, c'est plus dur. Plus dur. Donc, s'ils y arrivent, ben oui, ce sera plus fort que l'an dernier.
Merci beaucoup, Virginie Fulpin. Et Dieu sait que les 3 semaines qui viennent vont être difficiles pour Virginie, qui a une passion pour Arsenal aussi.
Voilà, vous balance. Ça y est, c'est parti.
Ça va être long.
Oui, je sais.
Ça va ce qui va être long aussi, c'est quand je vais vous rappeler votre chronique du 17 septembre tous les matins, Virginie. Le PSG
ne
pourra jamais faire back-to-back.
C'est pas fait encore.
J'ai décidé d'énerver Virginie ce matin.
Moi, je vais prendre le pont du 30 mai, je crois.
Le pont du 30 mai. Julien est en ligne avec nous. Salut Julien.
Bonjour à tous.
Bonjour Julien. Vous avez regardé le match hier soir, Julien?
Alors, j'ai regardé que la première mi-temps parce que j'étais au boulot.
Ouais.
Quand on aime le bon football, on est obligé d'être supporter de Paris, quoi.
Eh oui, une mi-temps a suffi pour vous convaincre. Hein.
Parce que ça joue bien, ça joue vite. En contre, ça va hyper vite. Enfin, c'est vraiment un collectif, quoi.
Non, mais c'est impressionnant à voir, hein, c'est vrai. Hein. Pour le coup, on n'a pas toujours vu un PSG de cette qualité. Vous êtes enthousiaste pour la finale, Julien?
Moi, je, honnêtement, alors je veux pas leur porter la malchance, mais je pense que ça va se finir comme l'Inter l'année dernière. Arsenal, ils vont être asphyxiés. S'ils passent pas à côté de leur finale, ils sont capables d'asphyxier totalement Arsenal, quoi.
En tout cas, ils vous ont impressionné. Julien, merci beaucoup de votre appel au 32-16. Vous ne manquerez rien sur RMC, évidemment, les meilleurs moments de la soirée d'hier, les supporters aussi, les à côté avec les dérapages qu'on a pu voir dans la rue à Paris. Et puis Daniel Riolo à 7h10 au micro d'Apolline de Malherbe et Jérôme Rotten après le journal de 8h tout à l'heure. Vous êtes bien sur RMC, il n'y avait pas de doute. 6h53.
Allez, c'est déjà demain avec Anthony Morel. Et cette question, qui n'a jamais été tenté de jeter un œil sur le smartphone de son conjoint ou de sa conjointe? Tiens, tiens. Les Français sont très nombreux à passer à l'acte. Près d'un sur deux admettent avoir déjà espionné le téléphone de leur moitié. Et c'est énorme, Anthony.
Bah moi, ça me semble énorme. En tout cas, je sais pas pour vous. Hein. 4 Français sur 10 qui ont déjà succombé à la tentation de ce qu'on appelle le snooping. Le fait de
admettent avoir succombé.
Oui, alors je c'est ça. Non, mais absolument. Probablement, le chiffre est beaucoup plus élevé que ça en réalité. Alors, c'est l'IFOP, hein, c'est une étude de l'IFOP. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les inégalités. Alors, les femmes sont plus curieuses que les hommes, visiblement. 44% contre 35% chez les hommes qui ont déjà snoopé.
Ou les
snoopé.
Hommes ont plus de choses à se reprocher que les femmes.
Peut-être. Ou ils admettent moins l'avoir déjà fait. C'est possible aussi. Voilà. Ça, j'en sais rien. Alors, chez les jeunes, par contre, ça assume complètement. Chez les jeunes, incroyable.
J'ai remarqué ça, c'est fou.
67% des moins de 35 ans qui disent avoir déjà regardé le téléphone de leur compagne ou de leur compagnon. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en priorité? Les réseaux sociaux, ou plutôt les MP, en gros, à voir dans les messages privés, voir si on n'est pas en train de draguer tous les top modèles d'Instagram, évidemment. Alors, le chiffre que je devrais peut-être pas donner, pour pas donner de mauvaises idées aux gens, mais c'est qu'en fait, ça marche. C'est-à-dire que la moitié de ceux qui disent avoir snoopé disent qu'ils ont découvert quelque chose d'intéressant.
Évidemment.
Eh ben oui, un mensonge. 35% des cas, une conversation un peu ambiguë en mode flirt. 29% consultation de site pour adultes. 22%, ça c'est plutôt chez les hommes. Le maintien d'une relation avec une ex. 21%. Et des preuves d'infidélité, 20%. Donc visiblement,
20%.
Alors je pense qu'il y a un biais aussi parce que ceux qui
soupçonnent quelque chose, ça joue beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut protéger son jardin secret, mon cher Anthony?
Alors il y a plein de choses. Bon, déjà les téléphones maintenant sont protégés quand même avec de la reconnaissance faciale. Déjà pour avoir accès au téléphone de sa moitié, c'est pas si simple que ça. Ensuite, il y a des moyens. Alors par exemple sur WhatsApp, vous savez que vous avez un moyen de passer vos conversations en privé. Vous pouvez sélectionner une conversation, vous allez dans les paramètres, les trois petits points là, et vous pouvez masquer la conversation, et en fait, plus personne ne va y avoir accès. Eh bah ben oui, même quand on va ouvrir votre WhatsApp sans votre présence, la conversation sera masquée, vous la verrez pas. Et alors, le dernier truc, ça c'est moins connu, c'est d'installer sur son téléphone un coffre-fort numérique. C'est une application, là par exemple, moi j'ai une petite calculatrice, voilà, c'est tout anodin. J'ouvre la calculatrice, je tape un petit code secret, je vais pas le faire devant vous, et je vais accéder à un passage secret, à un deuxième téléphone à l'intérieur de mon téléphone, dans lequel je peux cacher tout ce que je veux, des
conversations. Je savais
conversations
qu'on pouvait compter sur lui, pas que pour le sondage.
Photos, voilà.
Merci Anthony Morel. Apolline de Malherbe est avec nous. Bonjour à Pau.
Salut, vous avez dormi un peu quand même Mathieu ou pas?
Pas beaucoup,
pas beaucoup. Pas beaucoup, mais c'était pour la bonne cause. Je prends le relais dans un instant et vous l'avez suivi évidemment sur RMC hier soir. Le PSG en finale de la Ligue des Champions. Deuxième finale en 2 ans. Et si Paris réalisait ce doublé historique? On en parle toute la matinée avec nos envoyés spéciaux, nos journalistes, nos consultants et avec vous. Évidemment, je vous attends au 32-16.
5-7. Le Morning RMC.